talking to me? You talking to me?
My time's over, kid.
Are you ready?
I never play.
Si l'Amérique m'était comptée.
À quoi ressemble un super-héros américain ?
Portrait robot de l'homme idéal. Superman est rapide, Superman est puissant, Superman a des yeux à rayons X, Superman est invulnérable, invulnérable ou presque. À la fois homme et gadget, les Supermen aident l'Américain moyen à supporter son mal de vivre, l'Américain moyen et ses cousins de province.
Superman est la première star des super-héros. Il est né en 1938 et il est vrai que ses pouvoirs sont connus dans le monde entier. Même chez nous, les cousins de province des Américains. Et surtout depuis, sont apparus des dizaines de nouveaux super-héros. Captain America, Catwoman, Spider-Man, The Avengers ou The X-Men, tous envahissent nos écrans ou nos musées. Et preuve, s'il en fallait encore, de leur importance dans la culture pop internationale, les mots super-héros et comics viennent de faire leur entrée dans le petit Robert. Vraiment, les super-héros sont partout. Si l'Amérique m'était comptée, épisode 41. Superman, X-Men, Batman, super-héros et super-ambassadeurs des États-Unis d'Amérique.
Hi guys.
Et pour commencer, voici le plus emblématique des héros américains. Celui qui a un costume inspiré du drapeau des States, voici Captain America, chanté par la star country Jimmy Buffett.
Can you tell me where I might find my friend and companion? He looks a little different. He likes to beat the bass drum for justice and salvation. He's got the brains of Einstein and the brawn of Mr. Clean. He's a lightning flash who'll make the dash from one coast to the other. Stop a crime, lend a dime, or help his aging mother. Captain America, we love you. He's got the brains of Einstein and the bod of Mr. Clean. He's a lightning flash who'll make the dash from one coast to the other. To stop a crime or lend a dime or help his aging mother. Captain America, we love you. Captain America, you're grand.
Le héros est un être fabuleux, mi-divin, mi-humain.
Ainsi, dans l'Antiquité, Hercule, Achille ou encore Ulysse sont des héros.
Le héros est parfois un personnage légendaire auquel on attribue des exploits prodigieux.
Le roi Arthur, le Cid et pourquoi pas Robin des Bois sont des héros par tradition.
Les héros peuvent être aussi des personnes du réel.
Ils se distinguent par leur idéal, leur bravoure et leur sens du sacrifice.
Il y a bien sûr les héros de fiction.
On les trouve dans la littérature, au cinéma, dans les BD.
Et il est possible de dégoter quelques anti-héros.
Gaston Lagaffe, Tony Soprano ou encore The Dude dans The Big Lebowski.
Héros mythologiques, héros légendaires, héros de fiction, anti-héros, ils peuplent notre imaginaire.
Ouais, mais que sont ces héros face aux maîtres du genre, les super-héros?
Ils viennent d'Amérique, Il porte de délicieux costumes et fascine le monde entier.
Et ils l'ont déjà sauvé d'ailleurs.
Ainsi, aujourd'hui, si l'Amérique m'était comptée, elle le serait avec une cape rouge et des rayons laser qui lui sortent des yeux.
Xavier Fournier est le rédacteur en chef du magazine Comic Box, le magazine de référence sur les comics américains. Il nous raconte une petite histoire des super-héros, une petite histoire des meilleurs représentants de l'American Way of Life.
Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante.
Xavier Fournier, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, imaginons que nous soyons, vous et moi, dans les rues de New York en mars 1941. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, mais dans un kiosque à journaux, devant nous, il y a ceci, qui est un magazine de bande dessinée. Est-ce que vous pourriez nous décrire, s'il vous plaît, la une de ce magazine de bande dessinée?
Alors, la une de ce magazine, c'est un personnage masqué, drapé dans des couleurs patriotiques de l'Amérique, qui est en train de casser la figure avec perte et fracas d'un personnage qui n'est autre que Adolf Hitler.
Et qui est ce personnage qui casse la gueule à Hitler?
C'est Captain America. Et donc, fin 1940, en fait en décembre 1940, Marvel Comics a fait le pari de sortir ce comic book où toute l'originalité, justement, c'est qu'on a un héros fictif qui combat un dictateur bien réel. Et pour la petite histoire, Marvel s'était dépêché de le sortir parce qu'il était convaincu que la Seconde Guerre mondiale allait durer à peine quelques semaines, voire quelques mois, et qu'il fallait absolument sortir ce numéro avant qu'Adolf Hitler meure.
Police Commissioner Dryden speaking.
This is Captain America.
What's that? Where are you?
Never mind that.
Qui sont les créateurs de ce Captain America?
Alors, il y a le scénariste officiel qui s'appelle Joe Simon et son dessinateur qui s'appelle Jack Kirby. Donc, on crée ce Captain America qui, au contraire de ce qu'on pourrait croire, n'est pas auto-centré sur l'Amérique. Ce personnage-là, lui, il n'attend pas que l'opinion publique se décide, il y va. Et c'est un petit peu dangereux à l'époque, puisqu'il y a, des groupuscules nazis tout à fait officiels et tolérés et légaux aux États-Unis.
Ce qu'on appelait le Bund. Germano-américain. Voilà. Donc un mouvement américain favorable à l'Allemagne nazie.
Voilà. Et quand ils voient arriver ça dans un fascicule de bande dessinée, bah, ça se passe assez mal. Les locaux de Marvel Comics reçoivent des vrais faux colis piégés. Il a fallu que la mairie de New York promette la protection aux auteurs et aux éditeurs pour ce comic book. On va dire qu'il était quelques mois en avance sur son temps.
Alors, début décembre, 1941, c'est Pearl Harbor. Ouais. Et là, le Captain America, soudain, avec son bouclier magique, devient à la fois le protecteur et l'emblème de la nation américaine face aux forces de l'axe, ouais, du mal, on va dire.
C'est arrivé en deux temps. Et même avant l'arrivée de Captain America, il y avait déjà des super-héros patriotiques. Simplement, on leur invitait plein de personnages, plein d'ennemis complètement imaginaires. Alors, on inventait des pays, on inventait des dictateurs qui étaient un peu moustachus, qui avaient un vague accent germanique. On comprenait que c'était l'Allemagne, mais il ne fallait pas le dire. Captain America est le premier à mettre un nom et un visage sur l'ennemi. Et
donc, c'est clair. Hein,
voilà. Et la vérité, c'est qu'au contraire de la peur de l'éditeur, en fait, ça a été très populaire, ça a été réédité. Et même avant Pearl Harbor, il a été rejoint par plein d'autres super-héros qui ont combattu aussi Hitler sans attendre la guerre. Pour expliquer aussi, Captain America, c'est Steve Rogers, c'est un personnage maigrichon. C'est pas simplement un surhomme culturiste, un fou de guerre, c'est pas du tout ça. C'est un altruiste qui veut aller aider les autres pays, en fait.
Si j'ai commencé notre discussion sur les super-héros à travers ce focus sur Captain America, c'est que il est quand même symptomatique, j'ai envie de dire, des super-héros de la fin des années 30, mm-hmm, super-héros américains, qu'il faut le rappeler, hein, Xavier Fournier, qui sont quand même tous très liés à cette Seconde Guerre mondiale.
Mais en fait, plein de gens ignorent l'origine du mot super-héros. Et le mot super-héros, c'est un mot guerrier à la base. Ça date de la Première Guerre mondiale, quand les médias américains se sont rendus compte que cette guerre dépassait ce qu'on connaissait. Ils se sont mis à traiter les héros de la Première Guerre mondiale, les héros militaires, de super-héros. Et quand les soldats sont rentrés au pays, à la fin de ce premier conflit, on a dressé, entre la presse et le ministère des Armées, on a dressé la liste des plus grands super-héros. Alors, je ne sais plus si c'était 100 ou 200 médaillés. Et on peut retrouver, à partir de 1915, ce terme qui est beaucoup utilisé.
Qui sont des vrais
faits de guerre. Hein, pour
qui
le
sont
coup,
des vrais. En gros, on va dire, c'est le type qui arrive à capturer un bataillon ennemi à lui tout seul.
Ou à sauver sa compagnie à lui tout seul.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, le terme est parfois utilisé même pour des ennemis. C'est-à-dire que quand on fait un fait de guerre qui dépasse l'ordinaire, on est traité de super-héros. On trouve le terme beaucoup utilisé à partir de 1915. Et puis, c'est resté un petit peu associé à la guerre. Et les personnages que nous, aujourd'hui, on appelle des super-héros étaient qualifiés soit de surhommes, soit d'hommes masqués, soit d'hommes mystères. Et la vérité, c'est que quand les super-héros de la Seconde Guerre mondiale sont entrés en action, c'est à ce moment-là que la fonction et le nom se sont réunis. Donc le nom est tout à fait guerrier à la base.
Et c'est là qu'apparaissent tout ce qu'on connaît, 1938, Superman, le Superman. L'année suivante, 39, c'est Batman. Il y a aussi Wonder Woman qui apparaît en 1941, une femme, super-héroïne. Mmh. Et c'est vrai que c'est une légion de super-héros qui vient raconter une certaine histoire à un public qu'on pense enfantin ou adolescent, mais en fait, les parents finissent aussi par s'approprier ces histoires de super-héros aux États-Unis.
Bah, tout à fait, parce que ne serait-ce qu'il y avait des parents qui voulaient vérifier ce que leurs enfants lisaient, donc qu'ils lisaient avant, et puis qui parfois s'intéressaient à ça. C'était souvent un plaisir honteux, on ne s'en vantait pas forcément. Mais en regardant un petit peu la presse de l'époque, on peut trouver des choses assez étonnantes. On peut trouver aussi des cas de divorce, c'est-à-dire que des épouses qui ont demandé le divorce parce que le mari collectionnait trop les comic books.
Dans ces comics books de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, il y a aussi parfois de drôles de choses. Xavier Fournier, moi je ne l'ai jamais lu, mais il existerait un comics book de 1943 où il est déjà question d'un débarquement sur les côtes françaises pour libérer l'Europe, encore une fois, du joug nazi. Et qu'on est très troublé devant ce comics book puisqu'on a l'impression que les dessinateurs se seraient inspirés du débarquement en Normandie. Or, pas du tout, c'est antérieur, 1943. Ouais. C'est vrai cette histoire ou pas ?
C'est vrai. Mais il y en a même plusieurs qui anticipent ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de comic books qui étaient produits à l'époque que tous les scénarios étaient envisagés. Et il faut savoir, par exemple, qu'il y a un comic book qui est paru quelques semaines avant Pearl Harbor qui parle de l'invasion de Pearl Harbor. Donc effectivement, dès 42-43, on trouve plusieurs épisodes. Alors je pense que l'épisode auquel vous faites référence, c'est un épisode de Marvel Comics où on voit sur la couverture carrément les falaises et la plage où l'armée débarque sous la protection des super-héros. Mais il y a eu aussi un auteur très francophile qui s'appelait Bill Everett, qui est le créateur de Namor le Submariner.
Donc Namor le Submariner.
Le Submariner, c'est le prince d'Atlantis qui au début est quelqu'un qui en veut à la Terre entière, enfin au monde de la surface. Et puis quand la Seconde Guerre mondiale commence, il décide de se ranger du côté des Alliés. Et il y a un épisode où il se dit qu'on ne peut pas laisser la France comme ça. Donc avec ses forces atlantéennes, il débarque en France. Avec l'aide de la résistance, il soulève ville après ville contre l'occupant. Et puis, une fois son travail effectué, il laisse le contrôle aux résistants et il retourne dans son pays. Je pense que visiblement, il est reparti trop vite et que ça ne s'est pas non plus passé comme ça à ce moment-là.
Un cavalier qui surgit hors de la nuit vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro.
Alors là, on vient d'évoquer ces super-héros qu'on connaît tous, Superman, Captain America, Batman, qui donc sont nés au moment de la Seconde Guerre mondiale. Moi, il y a un super-héros qui est antérieur, c'est Zorro. Zorro, c'est plutôt début 20e siècle, c'est 1919, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est bien ça. Il incarne un peu toute la panoplie du héros moderne. Il a la double identité, il y a Don Diego de la Vega et Zorro, c'est le vengeur masqué, il a Bernardo, son fidèle serviteur, il a Tornado,
cheval. Il a une caverne qui sert de QG aussi.
Oui, c'est la Batmobile, Tornado.
Mais Zorro, c'est un Batman qui a eu le tort de naître avant l'invention de l'automobile. C'est net et certain, c'est ça, c'est exactement ça. Effectivement, on a tout le folklore et on a cette idée de l'homme riche qui passe pour un feignon pour mieux tromper son ennemi. Pour la petite histoire, le romancier qui a popularisé Zorro a aussi écrit une histoire, une suite de romans sur un clown, le clown rouge ou le clown écarlate, si on le traduit, et qui était une sorte de justicier déguisé en clown. Et quand on met les deux côte à côte, on se dit vraiment que c'est Batman et le Joker. Sauf que celui-là est plutôt de notre côté.
Oui, plutôt sympathique, on va dire. Toute la première moitié du XXe siècle, hein, on sent que voilà, c'est à la fois la naissance et l'âge d'or, enfin en tous les cas un premier âge d'or des super-héros américains. Et quand on regarde un petit peu la suite, en tous les cas la décennie qui suit la Seconde Guerre mondiale, les années 50, il y a un déclin, voire un rejet de ces super-héros. J'ai vu qu'il y avait un livre qui avait cartonné aux États-Unis dans les années 50 qui mettait en garde les adolescents contre les super-héros parce que ça les incitait à la violence, à la délinquance, voire à l'homosexualité.
Finalement, cette image de marque des super-héros, cette image qui leur avait tellement servi pendant la guerre, elle leur colle à la peau une fois la guerre finie. La paix signée. Mmh. Et on considère souvent que ce sont des personnages revanchards ou tout simplement qui ont passé leur temps. Donc on n'a plus besoin de super-héros au sens guerrier. Donc les ventes commencent à péricliter. On essaye un petit peu de contrer ça en introduisant une nouvelle génération, surtout de super-héroïnes. Ça n'a pas tellement marché. Et en même temps, il y a beaucoup de groupes de pression qui se réveillent, qui se disent finalement, s'il y a eu la guerre, c'est aussi parce qu'il y a une perte des valeurs et c'est aussi parce qu'il n'y a pas la bonne littérature. Donc arrive un psy qui s'appelle Frédéric Vertam, qui sort un livre qui s'appelle Seduction of the Innocent.
C'est le livre dont je parlais en fait.
Qui n'est pas tellement à destination des enfants, qui est plutôt une sorte de trompe-l'œil à destination des parents en disant regardez ce que vos enfants lisent. Il se trouve que ce psy est bardé de bonnes intentions. Le point de départ, c'était un crime qu'avait effectué un jeune garçon noir. La presse était partie en disant c'est normal, c'est un noir. Et lui s'était lancé là-dedans en disant c'est pas possible, on peut pas réduire la chose à la couleur. Il a cherché une autre source dans la société et pour le malheur des amateurs de BD, il s'est fixé sur les comic books. Et il a écrit article après article, livre après livre, en dénonçant des choses complètement inventées. C'est-à-dire que, suivant Frédéric Vertam, par exemple, effectivement, Superman est dangereux parce qu'il embrasse les hommes. Alors, ça fait quelques décennies que je lis des comics, ça fait quelques décennies que je lis je crois des collectionneurs qui en lisent depuis encore plus longtemps que moi, et personne n'a jamais vu ce fameux épisode.
Oui, c'est totalement inventé.
Voilà, par exemple, Wonder Woman serait dangereuse parce que d'après lui, le lasso de Wonder Woman, ça serait le symbole d'un vagin.
Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable.
Donnez-moi son signalement.
C'est une femme super.
La forme du visage?
C'est un ovale très pur. Mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur.
Tiens Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit.
Ensuite, il y a, j'ai envie de dire, une deuxième vague, qui est années 60-70, où là apparaissent, en tous les cas, des héros qu'on connaît bien, nous, qui sont Spider-Man, qui sont l'incroyable Hulk, voire le surfeur d'argent. Parce que moi, j'aimais beaucoup le surfeur d'argent.
Là aussi, ça s'est passé en deux temps. C'est-à-dire que l'oppression, on va utiliser le mot, qui s'est déroulée dans les années 50, a eu un effet contraire. C'est-à-dire que tous les comic books les plus sérieux, ceux qui se destinaient peut-être le plus aux adultes, ont disparu. Et les éditeurs qui avaient tourné le dos aux super-héros se sont dit, mais on va ramener ces personnages à super-pouvoir. Pourquoi? Parce qu'un super-pouvoir évite de donner un coup de poing. Donc quand Flash, qui est un personnage au costume rouge qui court très vite, suffisamment vite pour asphyxier son adversaire sans le toucher, ça donne une BD qui n'est pas très violente. Quand Green Lantern, qui a un anneau qui a été transmis par les extraterrestres, arrive à modeler l'énergie pour immobiliser son ennemi, là aussi il n'y a pas vraiment de corps à corps. Donc ça a créé dès 56 une deuxième génération de super-héros qui était beaucoup plus propre. Le vrai renouveau stylistique, il arrive effectivement en 61 avec Marvel Comics qui avait végété depuis quelques temps et qui commence par lancer les 4 Fantastiques. Et les 4 Fantastiques, finalement, c'est l'anti-Gary Cooper. Ça explique que non, les héros ne sont pas forcément beaux avec les dents blanches, que sur le quatuor, il y en a un qui est un monstre avec la peau qui ressemble à un mur de briques. Et on voit plein de scènes où les gens s'enfuient devant lui dans la rue. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il est récompensé pour son héroïsme. Et finalement, c'est plus crédible. C'est-à-dire qu'on voit quelque part la réaction des gens si quelqu'un comme ça déambulait dans la rue. Alors, le super-héros, c'est un personnage de contradiction. Et Stan Lee, donc, qui est le co-créateur des 4 Fantastiques, va imposer en plus des dialogues qui sont dans l'argot new-yorkais. Donc, les lecteurs peuvent voir des personnages qui parlent pour de vrai. Et ça change tout.
Et c'est aussi des personnages qui sont plus complexes.
Tout à fait.
Ils ont des faces obscures. Le surfeur d'argent, il a un côté clair, un côté sombre. C'est des personnages qui, tout d'un coup, deviennent beaucoup moins manichéens et, du coup, deviennent plus riches aussi.
Ouais. Dans les années 60, donc la presse les avait qualifiés, ces personnages, cette nouvelle génération de personnages de Marvel, les avait qualifiés de héros à problème. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les auteurs de Marvel prenaient soin de trouver un pathos. Daredevil, donc, qui est un avocat aveugle, et qui, bon, bah, c'est dans les mœurs de l'époque, ne peut pas déclarer son amour à sa secrétaire parce qu'il est aveugle et donc elle ferait pas son bonheur avec lui. La même chose pour Don Blake, qui est en fait le surpuissant Thor, mais dans sa vie privée, c'est un jeune boiteux. Donc il ne peut pas déclarer son amour à sa belle infirmière. Peter Parker, c'est du Zola, c'est du Victor Hugo, c'est ce que vous voulez.
Voilà, Peter Parker, c'est Spider-Man, surtout. Bien sûr. Alors, Spider-Man, c'est du Zola avec la dimension, on va dire, fantastique et super pouvoir en plus. Parce que, voilà, il y a aussi une vengeance qui est permise par le super pouvoir.
Alors, c'est vrai, mais en même temps, il faut jamais oublier qu'il y a des gens dans les costumes et que si Spider-Man n'était jamais qu'un énième personnage avec une autre forme de super-pouvoir, je pense qu'il aurait duré 1 ou 2 ans, on l'aurait oublié. Aujourd'hui, ça serait une curiosité historique. Ce qui remplit le costume, c'est Peter Parker. Ce qui différencie, qui plus est dans les années 60, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez un jeune garçon qui est mal dans sa peau. Il se trouve que la plupart de ses adversaires ont l'âge d'être son père ou son grand-père. Et là aussi, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Parce que dans les années 60, qu'est-ce qui se passe? Il y a la jeunesse de l'Amérique qui se réveille un peu, qui ne veut pas aller faire la guerre en Asie, qui ne veut pas les mêmes modes, qui devient un peu hippie. Alors Peter Parker n'est pas vraiment un modèle de hippie, mais en tout cas, tout ce lectorat-là, il va se reconnaître dans ce jeune garçon qui a des problèmes et qui n'est pas forcément très raccord avec la génération d'avant.
Qui je suis? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Si quelqu'un vous a dit que je n'étais qu'un type comme tout le monde, qui ne s'en fait pas dans la vie... Ce quelqu'un a menti. La vérité, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça.
Qui êtes-vous?
Qui je suis? Je suis Spider-Man.
Tu en fais beaucoup trop, tu n'es pas Superman.
Alors vous êtes, Xavier Fournier, un spécialiste hein, des super-héros américains. Et évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté de cette nouvelle vague, j'ai envie de dire, au cinéma des super-héros depuis 10 ans. C'est impressionnant, c'est des cartons au box-office. C'est tous les étés, tous les Noëls, arrive une nouvelle production très forte américaine qui met en scène ces super-héros. Et on a vu le retour, le comeback du Captain America, par exemple, au cinéma il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que ça dit pour vous de la société américaine aujourd'hui?
Là aussi, il y a des choses qui rebondissent avec l'actualité. C'est-à-dire que la vague actuelle de films, elle a commencé en 2000 avec le premier film X-Men. Elle a été rapidement suivie par Spider-Man. Et quand vous dites que ça fait une décennie que ça existe, je dirais un peu moins d'une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qui se passe en 2001? Qu'est-ce qui fait que l'Amérique a besoin à nouveau de chercher des héros, peut-être pas des super-héros sans guerrier, mais des personnages qui ont l'air de maîtriser les barrières entre le bien et le mal? Il y a ça. Bon, c'est un petit peu une analyse à deux balles, mais il y a quand même de ça. Il y a aussi une question technique, c'est-à-dire qu'il y a eu des films de super-héros avant, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que les effets spéciaux étaient difficiles à gérer. Et c'est pour ça que finalement les comic books ont souvent gardé ce genre bien à eux, parce que la mise en image était facile dans un fascicule en BD et que ça demandait une fortune pour mettre en action. La tagline du premier film Superman, c'était vous pourrez croire qu'un homme peut voler. Et donc ils avaient un fond bleu pour faire croire que Superman volait. Aujourd'hui, vous allez voir le tout dernier X-Men et vous avez je ne sais combien de personnages avec des super pouvoirs différents, des chose très complexe, c'était juste impossible à mettre en œuvre pour des questions de budget dans les années 90.
Et puis depuis une dizaine d'années également, on assiste à un phénomène de parodie. C'est-à-dire que Kick-Ass, par exemple, qui est un film qui a très bien marché, où là, tout d'un coup, le super-héros subit un petit peu la moquerie, dans le sens où on réinjecte, j'ai envie de dire, de l'humain dans le surhumain. Comment est-ce que vous expliquez aussi cette dimension un peu parodique qui s'est emparée de cet univers à la fois ultra-fantastique et powerful, comme on dit?
Je pense pas qu'on réinjecte de l'humain dans le surhumain, parce qu'il a jamais été absent du surhumain. Sinon, ça serait pas le super-héros. Souvent, on fait l'association entre, finalement, le surhomme de Nietzsche. Or, Superman, finalement, si vous voulez bien le traduire, ça ne serait pas surhomme, ça serait superhomme. C'est pas un homme qui est au-dessus, c'est un homme magnifié.
Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent ? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité.
Superman, il passe son temps à vouloir être Clark Kent. Et la plupart de ses collègues font pareil. Ce qui est vrai, c'est que les rapports de l'opinion américaine avec ces modèles ont changé, en particulier depuis l'échec de la guerre du Vietnam, depuis l'affaire du Watergate. Et donc, il y a une détestation du héros un peu trop parfait qui est venue. Et de plus en plus, on voit effectivement... Alors, il y a une BD dans les années 80 qu'il faut absolument citer, qui s'appelle Watchmen, où on met en échec la figure de super-héros en montrant que le bien et le mal sont des choses très relatives et que finalement, si vous mettez une demi-douzaine de personnes dans la même pièce avec chacun leur notion de bien et de mal, ça va tourner à la foire d'empoigne. Donc, il y a une progression comme ça. Faut savoir aussi que la plupart des éditeurs de comics qui publient des super-héros publient eux-mêmes leurs propres parodies de super-héros. Et quelque part, il ne faut pas oublier non plus que les fascicules de bande dessinée américaine sont restés fidèles à ce mot qui est de comics, qui tient aux racines du genre. Et je crois que c'est assez salutaire à un moment de sonner la cloche et de dire qu'il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux là-dessus.
Pour terminer, Xavier Fournier, si vous deviez choisir un super-héros américain, votre préféré, si j'ai envie de dire.
Mais le problème, c'est que, comment vous dire, c'est comme si vous me demandiez mon plat préféré, et si je le mangeais tous les jours de l'année, ça finirait par me lasser. Ah, Dieu merci, c'est sans doute ce qui est intéressant avec tous ces personnages-là, c'est qu'ils coexistent et on peut finalement être omnivore. Donc je me garderai bien d'en prendre qu'un.
La totale.
Voilà, hein. La totale.
Très bien, merci à vous.
Merci.
À bientôt.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
No one can save the day.
Here. Batman and Robin, we have a bit of a problem. There's trouble ruining Gotham City. You must act fast.
Holy mackerel, Batman. I think these clowns need a backhand. Let's be the Gap Band and drop the bomb on them and make them scat, man.
When you say scat, man, like the brother Corrupt, when it's on, it's cold, so bring the coroner cover.
We can take it to the basement, live with Tigger. Go get the Riddler and watch me play that nigga like a fiddler. On a hot tin move, I got them watching who? She who spits it like she was sipping rotten brew.
We marvel at you comics, you ain't no superhero.
You're just a stupid zero, you ain't more like De Niro.
Surprise, the dynamic duo, Batman and Robin, Gat set the squad.
Nigga.
Splat, hit him like 45 shells. Plat means more than 1 million sales. That snuff shot to lick, you get done up. Plus, we got the bad gas, so why would you run up?
When I split, turn Harvey Dent into Two-Face. Robin, I'm more than a sidekick, I'm more like the livest. They wanna go head up and collide in like collision. Hope your mom's made provision. See, you ain't got no wins, baby, not even a smidgen. Mad hostility dealt, now I'ma really be felt. Switch on my utility belt, make your facility melt. I go mad on your head, I watch your whole shit splatter. Get wicked on your case like Detective Van Adder. So the same goes, if you snooze, you lose. Trust to do me and Batman, the dynamic tool.
Save the day like Batman. Robin will
Yo, yo, kick back, Robin. Hit Alfred and tell him to have the barbecue buffalo wings and a pitcher of Kool-Aid on chill. It's about to get real in the field.
Batman and Robin, un sample du thème de la série télé par Snoop Doggy Dogg et Lady of Rage. Ouais, même le Snoop le dit, personne ne peut égaler Batman. Et ça fait 75 ans que ça dure. Oui, oui, Batman et Bruce Wayne fêtent cette année leurs 75 ans. À cette occasion, les éditions Urban Comics rééditent dans une version collector 5 récits emblématiques de l'univers du Chevalier Noir. C'est sublime. François Hercouette, le directeur éditorial d'Urban Comics, nous explique pourquoi Batman reste le super-héros préféré du public.
Vous aimez les chauves-souris ?
Oh, c'est un test d'horreur chaque, monsieur Wayne. Une tache d'encre. On peut y voir ce que l'on veut. La vraie question, c'est est-ce que vous, vous aimez les chauves-souris ?
François Hercouette, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de Batman. Avant tout, qui est Batman ?
Alors, Batman, on pourrait répondre simplement que c'est Bruce Wayne. Et forcément, la question après, c'est qui est Bruce Wayne ? Bruce Wayne, en fait, est un enfant issu d'une famille riche, mais dont les parents ont été assassinés dans la rue du crime, l'allée du crime, la Crime Alley. Au sortir d'une séance de cinéma. Et de voir ses parents tués par Joe Chill, donc un criminel notoire, va naître un véritable traumatisme. Et donc, la personnalité même de Batman, et donc plutôt de Bruce Wayne à l'époque, va se cristalliser sur ce crime. Et va naître, du coup, de ce traumatisme, le personnage ténébreux qu'on connaît sous le nom maintenant de Batman.
Batman, un super-héros, on le dit comme ça tout simplement, qui évolue dans un endroit très particulier, qui s'appelle Gotham City. On peut décrire un petit peu cette ville ?
Gotham City, c'est une représentation, on va dire, très sombre d'un mix en fait, de New York et de Chicago. Si on peut faire une comparaison un petit peu avec un autre super-héros qui s'appelle Superman et qui lui protège la ville de Metropolis, en fait, on a souvent dit que Metropolis et Gotham City étaient les deux facettes d'une même ville, à savoir New York, mais Metropolis côté jour et Gotham City côté nuit, avec tout cet aspect gothique qui a pu être développé dans les films, notamment comme celui de Tim Burton en 89.
Monsieur Dent, est-ce que vous croyez que ce mystérieux Batman est un justicier populaire qui veut nettoyer la ville ?
Aucune déclaration pour l'instant.
Batman, super-héros, ok, mais c'est un homme en fait, c'est Bruce Wayne, il n'a pas de pouvoir.
Non, c'est justement ce qu'il définit et ce qui fait vraiment l'originalité du personnage, c'est que c'est parmi cette horde, cette faune de super-héros qui composent en fait l'univers de DC Comics, Batman ne peut compter que sur ses atouts humains, mais poussés vraiment à l'extrême, voire même jusqu'à la caricature. Il a quand même tous les moyens matériels mis à disposition, puisqu'il a hérité de la fortune des Wayne. Il a également consacré plus d'une vingtaine d'années à sa formation intellectuelle et physique, voilà, à tous les niveaux. Il a également une morale qui est très particulière, qui va souvent aussi à l'encontre de la loi, ce qui lui a amené pas mal de problèmes par la suite à gérer avec le commissaire Gordon, entre autres.
Commissaire Gordon ?
Il est rentré chez lui. C'est moi qui ai envoyé le signal.
Que se passe-t-il ?
Hier soir, à la banque, j'ai remarqué quelque chose à propos de Double Face. Sa pièce fétiche, c'est son talent d'Achille. N'hésitez pas à l'exploiter.
Je suis au courant. C'est pour ça que vous m'avez appelé ? Le bat-signal n'est pas un beeper.
Je souhaiterais pouvoir vous dire que mon intérêt pour vous est purement professionnel.
Alors, la morale de Batman, c'est intéressant, parce que la question est vraiment, qu'est-ce qui motive son action ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il décide de faire quand il prend ce costume noir de Batman ? Qu'est-ce qu'il veut ?
En fait, il veut, et c'est assez intéressant, et c'est là où encore on différencie Batman des autres super-héros, c'est que Batman, en fait, œuvre à sa propre disparition. C'est-à-dire qu'il veut, en fait, recréer un monde exempt, en fait, de toute corruption, de toute criminalité. Donc, il veut vraiment nettoyer Gotham City. C'est vraiment sa raison d'exister. Voilà, il œuvre vraiment à sa propre disparition, que les conditions nécessaires à la création de Batman n'existent plus.
Il a été créé quand, Batman ?
Alors Batman a été créé et est apparu pour la première fois dans les pages du Détective Comics numéro 27 qui a été publié en mai 1939. Et là où Superman avance à visage découvert, on allait du coup avoir un justicier qui allait se masquer et qui allait surtout agir la nuit, contrairement à Superman qui peut agir de jour également. Voilà, on avait à chaque fois là où les codes vestimentaires aussi ont changé. C'est que Superman a des couleurs très primaires, on a du rouge, on a du bleu. Au contraire, on aura un camailleux de gris et de noir pour, pour ce personnage qui, dont l'élément effectivement de prédilection est la nuit. Donc voilà, on est vraiment dans une autre conception. Il y a aussi toute cette idée de l'inné et de l'acquis, c'est-à-dire que Superman, lui, de par sa condition extraterrestre en arrivant sur Terre, est doté de super pouvoirs, contrairement à Batman qui a vraiment dû se construire. Donc on a vraiment deux visions complètement différentes qui atteignent un même but, combattre les méchants ou le mal au sens général, mais par des moyens vraiment différents.
C'est moi qui vous le dis, mes amis. Cette fois-ci, il est devenu carrément dangereux. Combien de fois allons-nous permettre à Batman de dépasser les limites ?
Désolé, monsieur le conseiller, vous ne pouvez pas faire payer à Batman la mort de Chucky Sol.
Mais si, c'est un missile déréglé, commissaire, et je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de gens pensent, y compris dans la police d'ailleurs, que Batman est aussi instable que les criminels qu'il a fait coffrer. Une ville qui se respecte n'a pas le droit de recourir à l'aide d'un fou qui s'ignore.
Absurdité, monsieur. Vous êtes un modèle d'équilibre. Au fait, j'ai nettoyé vos collants et rangé vos bombes à gaz explosif.
Merci, Alfred.
Batman est né en 1939. François Hercouet, moi je me pose tout de suite la question du contexte. 1939, ça évoque tout de suite des choses. Il y a une relation entre le contexte de guerre mondiale et la naissance de Batman ?
Je dirais plus la naissance du genre super-héros que la naissance de Batman en particulier, où on a eu donc ce point de départ avec la naissance et la création de Superman. Où en fait on se rend compte que les créateurs en fait de ces personnages là, Simon Schuster, Bob Kane également, sont des fils d'immigrés juifs. Donc qui ont fui en fait en 10 ans auparavant le continent européen pour venir se réfugier aux USA, et ils pressentaient en fait la montée donc du nazisme et le mal qui allait dominer tout le continent européen. Et peut-être je pense que face à, on va dire à l'inactivité, peut-être une inactivité divine, ils ont cherché en fait à recréer des icônes, à se créer eux-mêmes leur propre dieu, ceux qui pourraient justement aller mettre une droite à Adolf Hitler le moment venu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque dès qu'ils en ont eu l'occasion, que ce soit Superman, Batman qui a combattu l'empereur Hirohito, donc du coup au Japon, ou même Captain America, chacun est venu défendre un petit peu la cause du bien en combattant le nazisme sur le continent européen, chose qui n'était pas encore faite. C'est-à-dire que vraiment la première intervention américaine en fait a été faite dans les comics.
De sa naissance en 1939 à aujourd'hui, Batman a sans doute énormément évolué. C'est quoi la direction qu'a pu prendre le personnage ?
Dès ses premières pages, on le voit armé. Donc, on a vraiment donc cette image d'un justicier sans concession, vraiment un vigilant dans ce qu'il peut y avoir aussi de plus détestable, c'est qu'on a une justice expéditive. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, donc le personnage s'est beaucoup défini par rapport à ses ennemis, notamment, on pense en premier lieu au Joker, forcément. Et il faut savoir que le Joker donc, est un personnage qui, au-delà du caractère un petit peu clownesque du personnage, est un tueur en série. Et par rapport à cette montée du chemin de la violence et de manière plus ou moins explicite dans ces publications qui sont avant tout destinées à la jeunesse, il va y avoir une réaction en fait au milieu des années 50, tous les éditeurs, que ce soit DC ou Marvel, donc pour mettre en fait sur pied un code, on va dire moral, une espèce de code d'autorité, enfin comic code authority, pour limiter la violence et le voire même le grotesque des images qui pourraient en fait effrayer les enfants. C'est-à-dire qu'on va envoyer Superman forcément dans l'espace, mais également Batman. Batman va aller combattre des extraterrestres, tout ça dans un style aussi très coloré et qui s'éloigne énormément de la teneur très sombre des premiers récits. On aura également au milieu des années 60 la création de cette série live, donc avec Adam West dans le rôle de Batman et Burt Ward dans le rôle de Robin, dont on se souvient, au moins tous les trentenaires, quarantenaires se souviennent pour les avoir vus à la télévision.
Avec les onomatopées.
Exactement. Vers les années 70 et donc l'impulsion éditoriale et aussi celle de certains auteurs, on se rend compte que le personnage va revenir un petit peu aux sources. Quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus torturé. On va revenir aussi beaucoup plus sur de l'enquête, sur du meurtre, enfin voilà, toute cette ambiance-là. Et puis voilà, on va, à la fin des années 70, début des années 80, on va avoir un espèce de bilan, un petit peu de toute cette évolution, avec une œuvre phare qui est celle de Frank Miller, avec le Dark Knight Returns, qui est vraiment, on va dire, c'est la dernière charge du Chevalier Noir, où on va retrouver un Bruce Wayne dévasté, il a la cinquantaine, Robin s'est fait tuer par le Joker, Catwoman est devenue PDG d'une boîte d'Escort Girl, enfin voilà, on a toute une espèce de... Le monde des super-héros a périclité, et là ici on va avoir un vrai dialogue interne de Bruce Wayne, de Batman, qui va décrire chacun de ses combats, justement, lui, cinquantenaire, remettant son armure, avec tous les... il est perclus de douleur, il n'en peut plus, s'il me fout encore un coup, vraiment je vais tomber dans le coma et c'est terminé. Donc voilà, on vit vraiment ce dernier combat avec le personnage.
Si vous dépassez votre condition d'être humain, si vous vous consacrez entièrement à un idéal,
Là seulement, vous serez devenu autre chose. Une légende, Monsieur Wayne, une légende.
Et puis, donc, après ce Dark Knight Returns, qui place un petit peu, on va dire, l'oméga du personnage, Frank Miller, avec David Mazzucchelli, va revenir à l'alpha. Il va vraiment revenir aux origines. C'est qu'on garde l'essence du personnage. Les parents ont toujours été tués à la sortie de la projection du masque de Zorro, parce que c'est aussi une des références, des influences de Batman. Et on va raconter, voilà, de manière très détaillée, en fait, les premiers jours de Bruce Wayne, alors qu'il revient à Gotham City. Il lui manque juste quelque chose, il lui manque le symbole. Et donc on va revivre un petit peu toute cette catharsis autour du symbole de la chauve-souris. Chauve-souris qui explose la baie vitrée de son salon et qui va lui faire très très peur. Il dit voilà, c'est exactement ce que je veux en fait évoquer dans le cœur des criminels. Donc voilà, il faut savoir que donc ce Batman année 1 de Mazzucchelli et Miller a redéfini la version moderne du personnage et inspire jusqu'à encore aujourd'hui en fait tous les scénaristes qui sont passés du coup après donc cette œuvre qui a été publiée en 86.
Il faut souligner la qualité esthétique de l'œuvre, c'est absolument magique. C'est très très beau.
C'est magique et surtout ça ne vieillit pas. On s'en rend compte, ben, notamment dans les éditions noir et blanc que nous publions à l'occasion des 75 ans du personnage de Batman. Donc nous avons donc une version noir et blanc de Batman année 1 et le trait de Mazzucchelli est d'une pureté, d'une finesse. Voilà, en plus, il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit avant. On a vraiment, là, pour le coup, vraiment l'essence du personnage.
To the Batmobile. Let's go.
Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
François Hercouët, vous portez quel regard sur les adaptations cinématographiques de Batman ?
Bah écoutez, moi j'ai grandi en fait, j'ai été terrifié dans mon fauteuil au cinéma à l'âge de 9 ans en fait, quand j'ai vu le Batman de Tim Burton, donc en 89. C'est quelque chose qui m'a vraiment cloué sur place, parce que la version de Jack Nicholson est vraiment parfaite, et surtout on se rend compte...
En Joker,
oui.
Batman ! Honnêtement, je vous le demande, dans quel genre de monde on vit, voir un homme habillé en chauve-souris s'emparer de ma presse ? Cette ville a besoin d'un lavement.
La version de Burton était très très gothique et qui collait vraiment à un petit peu l'ambiance, puis ce que les gens voulaient lire, enfin, plutôt regarder au cinéma. Puis après, on a eu vraiment un revers très étrange en fait, notamment de Schumacher avec son Batman et Robin. Donc deux films qui ont été diffusés en 95 et 97, donc on est à l'orée des années 2000, où là pour le coup, on va retrouver une version très... Bah, maintenant qui peut être qualifié de kitsch, mais qui peut aussi rappeler bah, le Batman des années 60. C'est Batman, mais on va quand même en rire. Enfin, on va prendre le truc un peu à la légère, on va avoir justement une galerie de personnages très haut en couleur. Vraiment, pour moi, on est vraiment dans une pure référence à la série télé des années 60, qui a son public. Moi, clairement, j'ai vu ça comme une trahison à l'époque. Maintenant, voilà, je le vois avec un peu plus de recul, avec un peu de nostalgie. Et puis, est arrivée donc récemment la trilogie de Christopher Nolan. Et là où, pour le coup, on a une version très réaliste, en fait, tout simplement, du personnage, c'est qu'en gros, de nos jours, si Bruce Wayne existait, comment il deviendrait Batman, avec les moyens technologiques du bord, et où la Batmobile n'a plus rien de ce que Tim Burton avait pu en faire, n'a plus rien de félin, n'a plus rien d'élancé, on est vraiment avec un tank, on vise vraiment l'efficacité. C'est, oui, c'est le but de Batman, où on voit aussi son équipement évoluer à travers les films. Voilà, il y a vraiment aussi une évolution du personnage au grand écran, qui, voilà, on attend la prochaine itération qui va sans doute opposer donc, le fils de Krypton, à savoir Superman, au fils de Gotham City, Batman.
Batman, c'est un gros succès populaire, notamment parce que les personnages sont incroyables et parmi tous les super-héros, les méchants chez Batman sont identifiés. On dit le Joker, on voit tout de suite qui est le Joker, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs. Ils sont formidables, ces méchants.
Ils sont en fait, ce sont les... Pour chaque méchant en fait, de l'univers de DC, c'est que ce sont les opposés. Donc vraiment, à chaque super-héros est attitré une galerie entière de super-vilains. On se rend compte que pour Batman, on va dire que bon, le premier méchant vraiment a été le Docteur Strange, qui est beaucoup moins connu que le Joker. Mais voilà, le deuxième, c'est historiquement, c'est le Joker. Et on se rend compte que là où Batman veut remettre du droit, veut remettre de l'ordre, le Joker est vraiment décrit comme un agent de l'anarchisme, un agent du chaos. Et voilà, voilà, on se rend compte après dans la création au fur et à mesure des vilains, donc des personnages qui vont vraiment vouer une haine dirigée non pas contre les forces de police ou contre l'ordre, mais vraiment contre Batman. Et on se rend compte que les méchants, cette galerie en fait de méchants de Batman, représente une version pervertie des atouts ou du moins des forces de Batman. C'est-à-dire que là où Bruce Wayne est issu d'une famille riche et donc a cet avatar social de Bruce Wayne, le milliardaire playboy éternel célibataire, on va avoir une version du coup pervertie avec le pingouin notamment, qui est lui aussi issu d'une des riches familles de Gotham City, les Cobblepot, mais qui lui va servir de cette fortune pour créer un véritable empire de la pègre. On a également Harvey Dent, donc qui est double face, qui est donc ce brillant procureur américain à Gotham City, qui à un moment formait un espèce de trio avec le commissaire Gordon et Batman. On a vraiment un triumvirat de la justice incarné à Gotham City et qui, suite donc à un procès qui a mal tourné où il s'est fait défigurer le visage, va devenir complètement fou. Donc là vraiment, on est à chaque fois, on a une facette un petit peu différente et négative de la personnalité de Batman dans chacun de ses ennemis.
Malgré les courageux efforts de Batman la nuit dernière, Harvey Doubleface court toujours. On estime qu'il est très dangereux. Passons aux nouvelles brèves. Le milliardaire Bruce Wayne a étendu son audacieux programme de partage des bénéfices aux employés de son très florissant département d'électronique de Wayne Enterprise.
Oui, c'est une personnalité complexe, Batman. L'argent est au centre de la réflexion chez Batman, parce que ses pouvoirs viennent de l'argent. Il arrive à acheter tous ses gadgets parce qu'il a une fortune énorme. Il n'est pas là tellement pour défendre l'argent, il est là pour défendre la morale ou je sais pas trop quoi. Il y a une réflexion autour de l'argent sans cesse. Est-ce qu'on pourrait le lire aussi comme une critique de la place de l'argent dans la société des États-Unis ?
Effectivement, l'argent, c'est, on va dire, là pour le coup, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est une guerre contre le mal qui ne pourrait pas mener sans. Mais c'est quelque chose qui n'est jamais mis en avant. Et là où on attend le playboy très, très arrogant, c'est un rôle qu'il joue. Mais derrière, il reverse énormément aux associations caritatives. Enfin, il œuvre vraiment, il veut vraiment porter et faire dorer le blason des Wayne, puisque son père a été un brillant chirurgien qui a fait beaucoup de bien à Gotham City. Il veut vraiment faire perdurer en fait cette image-là.
L'argent, ça pourrait être tout bien parce que ça aide à faire le bien. Batman utilise son argent pour faire le bien. Là, c'est plus complexe. C'est illégal ce qu'il fait. Batman, il va attraper des méchants. Mais non, c'est le rôle de la police. Donc c'est illégal. Mais c'est légitime parce qu'il sauve des gens. C'est complexe, Batman. C'est pas quelque chose de primaire.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que c'est la justice appliquée par un seul homme et qui... Même s'il est animé d'une morale qui, en fait, il tente d'emmener en gros l'humanité, selon le précepte de Kant, dans chacune de ses actions positives, ressort quand même d'une manière très, peut paraître très négatif, parce qu'effectivement, non seulement il prend le rôle de la police, mais il va peut-être aussi inspirer les mauvaises personnes, hein, c'est-à-dire que chacun va se dire, voilà, va devenir vigilant. C'est notamment un phénomène qu'on a vu dans la vie réelle. Je crois que c'était au Brésil ou au Mexique où on avait donc ces personnes qui étaient souvent issues de milices de vigilants, puisque ça existe également, mais voilà, qui du coup avaient peut-être aussi besoin d'un symbole et on choisit celui de Batman pour appliquer une justice aussi qui peut être tout à fait expéditive et en fait qui n'est pas cadrée, qui n'est pas normée. Et je pense que c'est surtout ce que craint le commissaire Gordon quand il ordonne parfois dans certains récits la chasse à la chauve-souris, c'est qu'effectivement c'est un personnage qui est hors contrôle.
Il me faut un nom. Bad Boy, l'aile noire. Alors à ton avis, trouve-moi un super nom d'équipier.
Pourquoi pas Dick Grayson, simple étudiant.
Va te faire foutre, et je viens de te sauver la vie. T'as oublié?
Tu n'as aucun self-control. Un jour, tu te feras tuer.
Je suis ton nouvel équipier.
Sûrement pas.
Bruce, chaque fois que tu sortiras, je veillerai au grain. On ne verra plus Batman seul, on me verra avec lui. C'est comme ça, tu ne m'en empêcheras pas.
Je t'en empêcherai si je veux.
Batman est pas seul. Il y a à côté de lui Robin. Qui est Robin?
Robin, en fait, est Dick Grayson et c'est un orphelin que Bruce Wayne a recueilli à la mort des parents de Dick, qui étaient donc des trapézistes, des artistes de cirque qui ont été assassinés, en fait. Donc leur trapèze a été scié et donc Dick s'est retrouvé orphelin, recueilli par Bruce Wayne. Ça ne s'est pas bien passé au début du tout. Et puis voilà, donc Dick Grayson est devenu Robin. Il a embrassé la cause de Batman, de la lutte contre le crime. Et puis, petit à petit, le personnage s'est émancipé. C'est-à-dire qu'il a évolué, c'est-à-dire que le personnage a vieilli. Alors, Batman évolue aussi. C'est moins criant, mais c'est la vérité. Donc, Dick Grayson, donc ce Robin, s'est transformé petit à petit en super-héros à part entière. Il est devenu Nightwing. Il a eu sa propre ville à protéger. Donc voilà, on a vraiment un héritage, en fait. La création d'un espèce de Batman bis.
Oui.
Par Bruce Wayne.
Et puis, l'existence de Robin a permis d'imaginer des choses sur la vie sexuelle de Batman. Et c'est vrai, c'est quelque chose de récurrent.
Ben c'est, voilà, c'est un peu le running gag avec le professeur Vertam, de cette séduction de l'innocent qui a vraiment vu une incitation en fait, à l'homosexualité chez les jeunes dans les récits de Batman. Et du coup, voilà, on a eu ce réflexe éditorial de DC Comics de créer une Bat-Family. C'est-à-dire qu'à à la même époque, Superman s'était entouré aussi d'une cousine, d'un Superboy également, de personnages féminins dans son entourage. Et c'est exactement ce qui a été fait aussi pour Batman, de manière plus ou moins naturelle. On s'est retrouvé avec une Batgirl, une Batwoman. Voilà. Dans la mesure où on ne pouvait pas non plus, il y avait aussi là, cette contrainte, c'est que le Comic Code Authority a limité les apparitions de personnages comme Catwoman. Catwoman qui était un personnage dès le départ très sensuel et très sexuel en fait, et donc qui est disparu au milieu des années 50 pour justement en fait, faire place à des personnages plus conventionnels que pouvaient être Batgirl et Batwoman.
Mais bon, il y a Robin.
Et il y a Robin, mais voilà, moi je vois vraiment, c'est comme ça, j'ai jamais vraiment vu cette image homosexuelle, mais je vois vraiment surtout une filiation, et donc pour moi ça gomme toute autre interprétation.
Pour terminer, François Hercouet, moi j'ai l'impression, je me gourre peut-être, que Batman, de tous les super-héros, est le moins américain. Il est peut-être le plus universel. Captain America, évidemment, est très américain. Superman, ne serait-ce que par les couleurs, est très américain. Batman, peut-être un peu aussi européen, un peu universel.
Ouais, ça passe effectivement par d'abord une première approche visuelle. On voit qu'au niveau de la création du personnage, Bob Kane, c'est pour créer le personnage, notamment les ailes, ou plutôt ce qui est devenu ensuite la cape, c'est inspiré des créations de Léonard de Vinci. Donc il y avait déjà une influence européenne, ne serait-ce qu'au niveau du graphisme. On a ensuite, au niveau des visuels, c'est-à-dire qu'on est, tout ça est à base de structures gothiques, de grosses machineries, de quelque chose de très très sombre, qu'on peut retrouver notamment dans les films de Fritz Lang, entre autres. Donc on a quand même cette influence de la vieille Europe sur ce personnage. Et après, moi c'est une interprétation qui n'engage que moi, mais je vois dans le personnage de Batman un personnage qui doute de tout. On peut voir aussi le doute systématique de Descartes. Enfin, je comprends moi l'attirance d'un public plus européen pour un personnage effectivement beaucoup plus sombre, où le monde est aussi beaucoup moins simple que ce que peut faire après Superman. Et ce que peuvent peut-être penser aussi les Américains.
On aime bien Batman, en fait.
On aime bien Batman, oui.
Merci beaucoup, François Hercouet.
Merci.
Je pourrais écrire un chapitre formidable sur un homme qui se déguise en rongeur volant.
Mais les chauves-souris ne sont pas des rongeurs.
C'est vrai, ça je l'ignorais. Vous commencez à m'intéresser. Appelez-moi Chase. Et vous, au fait, vous avez un prénom ou bien je dois vous appeler Bat ?
Et voilà, c'est la fin de cette émission et aussi la fin de la saison 1 de Si l'Amérique m'était comptée. Car la semaine prochaine, ce sera la fête de la musique en direct de l'Olympia sur France Inter. Mais voilà, pour l'ensemble de cette saison américaine, merci à Marco Mutel, Thierry Dupin et Olivier Lefayère. Merci aussi à Alice Berger, Fabien Laléous, Kevin Pelot et Loïc Frapsos pour la technique.
Et merci aussi à Joy Raffin pour l'ensemble de son œuvre.
Joy Raffin, la voix narrative de cette émission. Merci beaucoup, Joy, et à la saison prochaine.
Et oui, la saison prochaine, we'll be back. Mais avant ça, vous pourrez réécouter Si l'Amérique m'était comptée cet été. Ce sera tous les samedis entre 11h et midi sur France Inter. Premier rendez-vous, samedi 28 juin, pour une émission consacrée à la so chic Jackie Kennedy. Ah, et puis sachez aussi que du 28 juin au 13 juillet, vous retrouverez Colin et Mauduit tous les soirs, de 20h à 21h pour une émission qui sera consacrée à la Coupe du Monde au Brésil, Si tu ne vas pas à Rio.
Yes, Si tu ne vas pas à Rio, Mauduit.
Ah bah si tu ne vas pas à Rio, tu restes sur France Inter.
Et on va parler foot pendant 15 jours sur France Inter, tous les soirs entre 20h et 21h.
Exactement, on va parler foot, les crampons sont prêts.
Ouais, et avec beaucoup d'artistes.
Hein. Ah oui, il y aura du beau monde.
Akhenaton, Julien Doré, Sylvie Piala, Gilbert Melki, Denis Podalides,
Isabelle Nanty et plein d'autres.
Le Star Game. Et Joy Raffin aussi sera avec nous, hein Joy.
Mais oui, I'll be back.
et voilà, et on va essayer de trouver un regard. Peut-être pas différent, on n'a pas cette prétention-là, mais enfin, notre regard sur la Coupe du Monde de foot.
Exactement, merci beaucoup à vous tous et à très bientôt, salut.
Juste après le journal de 18h sur France Inter, vous retrouverez Guillaume Gallienne et vous le savez, ça ne peut pas faire de mal. Bye Fox and see you soon!